You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Chapitre 2, sous-chapitre 12, de Histoire curieuse et pittoresque par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Récit de la conférence du diable avec Luther, écrit par Luther même. Il m'arriva une fois de m'éveiller tout à coup sur le minuit, et Satan commença à disputer ainsi avec moi. « Écoute, me dit-il, Luther, docteur très éclairé, tu sais que pendant 15 ans, tu as célébré presque tous les jours des messes privées. Que serait-ce si de telles messes privées étaient une horrible idolâtrie? Que serait-ce si le corps et le sang de Jésus-Christ n'y avaient été présents, et que tu n'eusses adoré et fait adorer aux autres que du pain et du vin? Je lui répondis, j'ai été fait prêtre, j'ai reçu l'onction et la consécration des mains de l'évêque, et j'ai fait tout cela par le commandement de mes supérieurs, par l'obéissance que je leur devais. Pourquoi n'aurais-je pas consacré, puisque j'ai prononcé sérieusement les paroles de Jésus-Christ, que j'ai célébré ces messes avec un profond respect, tu le sais. Tout cela est vrai, me dit-il, mais les Turcs et les païens font aussi toutes choses dans leur temple par obéissance, et ils y font sérieusement leur cérémonie. Les prêtres de Jéroboam faisaient aussi toutes choses avec zèle et de tout leur cœur, contre les vrais prêtres qui étaient à Jérusalem. Que serait-ce si ton ordination et ta consécration étaient aussi fausses que les prêtres des Turcs et des Samaritains sont faux, et leur culte faux et impie? Premièrement, tu sais, me dit-il, que tu n'avais alors ni connaissance de Jésus-Christ, ni vraie foi. Et qu'en ce qui regarde la foi, tu ne valais pas mieux qu'un Turc, car le Turc et tous les diables croient l'histoire de Jésus-Christ, qu'il est né, qu'il a été crucifié et qu'il est mort, etc. Mais les Turcs et nous autres, esprits réprouvés, nous n'avons pas de confiance en sa miséricorde, et nous ne le tenons pas pour notre médiateur et notre sauveur. Au contraire, nous avons horreur de lui, comme d'un juge sévère. Telle était ta foi, tu n'en avais point d'autre, quand tu reçus l'onction de l'évêque, et tous ceux qui donnaient ou qui recevaient cette onction avaient ces sentiments de Jésus-Christ, ils n'en avaient point d'autre. C'est pour cela qu'en vous éloignant de Jésus-Christ, comme d'un juge cruel, vous aviez recours à la Vierge Marie et aux saints, et vous les regardiez comme des médiateurs entre vous et Jésus-Christ. Voilà comme on a ravi la gloire à Jésus-Christ. c'est ce que ni toi, ni aucun autre papiste ne peut nier. Vous avez donc reçu l'onction, vous avez été consacré, et vous avez sacrifié à la messe comme des païens et non comme des chrétiens. Comment donc avez-vous pu consacrer à la messe ou célébrer vraiment la messe puisqu'il y manquait une personne qui eut la puissance de consacrer, ce qui est, selon votre propre doctrine, un défaut essentiel? Secondement, tu as été consacré prêtre et tu as abusé de la messe contre son institution et contre la pensée et le dessein de Jésus-Christ qui l'a institué. Car Jésus-Christ a voulu que le sacrement fût distribué entre les fidèles qui communient, et qu'il fût donné à l'Église pour être mangé et pour être bu. En effet, le vrai prêtre est établi ministre de l'Église pour prêcher la parole de Dieu et pour donner les sacrements, comme le portent les paroles de Jésus-Christ en la scène, et celle de saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens, en parlant de la scène du Seigneur. De là est venu que les anciens l'ont appelée communion, parce que, selon l'institution de Jésus-Christ, le prêtre ne doit pas user seul du sacrement, mais les autres chrétiens, qui sont ses frères, en doivent user avec lui. Et toi, pendant 15 ans entiers, tu t'es toujours appliqué à toi seul le sacrement, lorsque tu as dit la messe, et tu n'y as pas fait participer les autres. Il t'était même défendu de leur donner tout le sacrement. Quel sacerdoce est-ce là? Quelle onction? Quelle messe et quelle consécration? Quelle sorte de prêtre es-tu, qui n'a point été ordonné pour l'Église, mais pour toi-même? Il est certain que Jésus-Christ n'a point connu et ne connaît point ce sacerdoce et cette onction. Troisièmement, la pensée et le dessein de Jésus-Christ, comme ses paroles le marquent, est qu'en prenant le sacrement, nous annoncions et nous confessions sa mort. Faites ceci, dit-il, en mémoire de moi. Et comme dit saint Paul, 10 heures de messe privée, tu n'as pas seulement une fois prêché et confessé Jésus-Christ dans toutes tes messes. Tu as pris seul le sacrement et tu as marmotté entre tes dents et comme en sifflant les paroles de la scène pour toi seul. Est-ce là l'intention de Jésus-Christ? Est-ce par de telles actions que tu montreras que tu es prêtre de Jésus-Christ? Est-ce là faire le prêtre chrétien et pieux? As-tu été ordonné pour cela? Quatrièmement, il est clair que la pensée, le dessein et l'institution de Jésus-Christ sont que les autres chrétiens participent aussi au sacrement. Mais toi, tu as reçu l'onction, non pour leur distribuer ce sacrement, mais pour sacrifier. Et contre l'institution de Jésus-Christ, tu t'es servi de la messe comme d'un sacrifice. Car c'est ce que signifient clairement les paroles de l'évêque qui donne l'onction, lorsque, selon la cérémonie ordinaire, il met le calice entre les mains de celui qui vient recevoir l'onction et qui lui dit « Recevez la puissance de célébrer et de sacrifier pour les vivants et pour les morts. Quelle est, ô malheur, cette onction et cette ordination tout à fait sinistre et perverse? Que de ce que Jésus-Christ a institué comme une viande et comme un breuvage pour toute l'Église, et pour être présenté par le prêtre à ceux qui communient avec lui. Tu en fasses un sacrifice propitiatoire devant Dieu. Ô, abomination qui passe toute abomination. Cinquièmement, la pensée et le dessein de Jésus-Christ est, comme nous l'avons dit, que le sacrement soit distribué à l'Église et aux communiants pour relever et pour affermir leur foi dans les combats des diverses tentations qui viennent du péché et du diable, même pour renouveler et prêcher les bienfaits du Christ. Mais toi, tu l'as regardé comme une chose qui t'était propre, que tu pouvais faire sans les autres, et que tu pouvais leur donner gratuitement ou pour de l'argent. Dis-moi, que peux-tu nier de tout cela? As-tu donc été fait prêtre de la sorte, c'est-à-dire sans le Christ et sans foi? Car tu as reçu l'onction et l'ordination contre le dessein et l'institution de Jésus-Christ. Non, afin de donner le sacrement aux autres, mais afin de sacrifier pour les vivants et pour les morts. Tu n'as pas été ordonné pour être ministre de l'Église, etc. De plus, comme tu n'as pas distribué le sacrement aux autres, tu n'as pas prêché Jésus-Christ à la messe, et par conséquent, tu n'as rien fait des choses que Jésus-Christ a instituées. As-tu donc reçu tout à fait l'onction et l'ordination contre le Christ et son institution pour faire tout ce qui est contre lui? Et si tu as été consacré et ordonné par les évêques contre Jésus-Christ, il est hors de doute que ton onction et ton ordination est impie, fausse et antichrétienne. Je soutiens donc que tu n'as pas consacré à ta messe et que tu n'as offert, adoré et fait adorer aux autres que du pain et du vin seulement. Tu vois maintenant qu'il manque dans ta messe, premièrement, une personne qui puisse consacrer, c'est-à-dire un homme chrétien, qu'il y manque en second lieu une personne pour qui on consacre et à qui l'on doit donner le sacrement, c'est-à-dire l'Église, le reste des fidèles et le peuple. Mais toi, qui es un impie et qui ne connais pas Jésus-Christ, tu es là, debout, tout seul, et tu t'imagines que le Christ a institué pour toi seul le sacrement, et que tu n'as qu'à parler pour consacrer dans ta messe privée le corps, le sang du Seigneur, quoique tu ne sois pas membre de Jésus-Christ, mais son ennemi. Il y manque en troisième lieu le dessein, le fruit et l'usage pour lequel le Christ a institué ce sacrement, car Jésus-Christ l'a institué en faveur de l'Église, pour être mangé et pour être bu, pour fortifier la foi des fidèles, pour prêcher et pour exalter dans la messe les bienfaits de Jésus-Christ. Or, tout le reste de l'Église, qui ne sait pas même que tu dis la messe, n'apprend rien par toi et ne reçoit rien de toi. Mais toi seul, dans ton coin muet et sans rien dire, tu manges seul, tu bois seul, et ignorant que tu es de la parole du Christ, homme indigne et sans foi, tu ne communies personne avec toi. Et suivant la coutume qui est parmi vous autres, tu vends pour de l'argent, comme une bonne chose, ce que tu fais. Si donc tu n'es pas une personne capable de conserver et que tu ne le doives pas, s'il n'y a personne à ta messe pour recevoir le sacrement, si tu mets à l'envers, si tu changes et si tu renverses entièrement l'institution du Christ, enfin, si tu n'as reçu l'onction que pour faire ainsi toute chose contre le Christ, qu'est-ce que ton onction et que fais-tu ensuite en disant la messe et en consacrant que blasphémer et tenter Dieu, tellement que tu n'es pas véritablement prêtre, ni le pain véritablement le corps de Jésus-Christ. Je te donnerai une comparaison. Si quelqu'un baptisait quand il n'y a personne à baptiser, si quelque évêque, selon la coutume ridicule qui s'est introduite parmi les papistes, baptisait une cloche ou une sonnette, ce qui ne doit, ne peut recevoir le baptême. Dis-moi, je te prie, serait-ce là un vrai baptême? Tu seras contraint d'avouer ici que ce n'en serait pas un, car qui peut baptiser ce qui n'est point ou ce qui ne peut recevoir le baptême? Que serait-ce que ce baptême si je prononçais en l'air ces paroles? Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que je répandisse de l'eau. Qui est-ce qui recevrait la rémission de ses péchés ou le Saint-Esprit? Serait-ce l'air ou la cloche? Il est palpable qu'il n'y a point là de baptême, quoique ces paroles du baptême soient prononcées, ou que l'eau soit répandue, parce qu'il y manque une personne qui puisse recevoir le baptême. Que serait-ce si la même chose t'arrivait dans ta messe, que tu prononçasses les paroles, que tu crusses recevoir le sacrement, et que cependant tu ne reçusses que du pain et du vin, car l'Église, qui est la personne qui reçoit, n'y assiste pas. Et toi, qui es un impie et un incrédule, tu n'es pas plus capable de recevoir le sacrement qu'une cloche l'est de recevoir le baptême. C'est pourquoi tu n'es rien du tout quant au sacrement. Tu me diras peut-être ici, quoique je ne présente pas le sacrement aux autres qui sont dans l'église, je ne laisse pas de le prendre et de me le donner à moi-même. Et il y en a plusieurs parmi les autres qui, tout incrédules qu'ils sont, reçoivent le sacrement ou le baptême. Et cependant, ils reçoivent un vrai baptême et un vrai sacrement. Pourquoi n'y aurait-il pas dans la messe un vrai sacrement? Mais ce n'est pas la même chose, parce que dans le baptême, lors même qu'il se donne dans une nécessité pressante, il y a au moins deux personnes, celle qui baptise et celle qui doit être baptisée, et souvent plusieurs autres personnes de l'Église. De plus, la fonction de celui qui baptise est telle qu'il communique quelque chose aux autres personnes de l'Église comme à ses membres, et qu'il ne leur ôte rien pour se l'appliquer à lui seul, comme tu fais dans la messe. Et toutes les autres choses qui se passent dans l'action du baptême sont selon le commandement et l'institution du Christ. Mais ta messe est contre l'institution du Christ. En second lieu, pourquoi n'enseignez-vous pas qu'on se peut baptiser soi-même? Pourquoi désapprouvez-vous un tel baptême? Pourquoi rejetteriez-vous la confirmation si quelqu'un s'est confirmé lui-même, comme l'on confirme parmi vous? Pourquoi la consécration ne vaudrait-elle rien si quelqu'un se consacrait prêtre lui-même? Pourquoi n'y aurait-il point d'absolution si quelqu'un se la donnait à lui-même? Pourquoi n'y aurait-il point d'onction si quelqu'un, étant à l'extrémité, se la donnait à lui-même, comme on la donne parmi vous? Pourquoi n'y aurait-il pas de mariage si quelqu'un se mariait à lui-même, ou voulait forcer une fille et dire que cette action devrait être un mariage malgré cette fille? Car ce sont là vos sept sacrements. Si donc personne ne peut faire aucun de vos sacrements ou en user pour soi-même, pourquoi veux-tu faire ce grand sacrement pour toi seul? Il est bien vrai que le Christ s'est pris lui-même dans le sacrement, et que tout ministre, en le donnant aux autres, le prend aussi pour lui-même. Mais il ne le consacre pas pour lui seul. Il le prend conjointement avec les autres et avec l'Église. Et tout cela se fait selon la parole de Dieu, le commandement et l'ordre du Christ. Quand je parle ici de consécration, je demande si quelqu'un peut consacrer et faire le sacrement pour lui seul, parce que je sais fort bien qu'après la consécration, chaque prêtre en peut user comme les autres, car c'est la communion et la table du Seigneur qui est commune à plusieurs, comme lorsque j'ai demandé si quelqu'un pouvait se donner l'onction, il pouvait se servir ensuite de sa vocation. Et enfin, lorsque j'ai demandé si quelqu'un ayant violé une fille, c'était assez que celui qui l'avait déshonorée appelât mariage cette conjonction, je savais bien aussi que quand la fille consent d'abord au mariage, la conjonction qui suit, ce consentement est un mariage. Dans cette détresse, dans ce combat contre le diable, je voulais repousser cet ennemi avec les armes auxquelles j'étais accoutumée sous la papauté. Je lui objectais l'intention et la foi de l'Église, en lui représentant que c'était dans la foi et dans l'intention de l'Église que j'avais célébré les messes privées. « Je veux, lui disais-je, que je n'ai pas cru comme il fallait croire, et que je me sois trompée dans ma pensée. » L'Église, néanmoins, a cru en cela, comme il fallait croire, et ne s'est point trompée. Mais Satan, me pressant avec plus de force et de véhémence qu'auparavant, « Ça, me dit-il, fais-moi voir où il est écrit qu'un homme impie, incrédule, puisse assister à l'autel de Jésus-Christ, consacrer et faire le sacrement en la foi de l'Église. Où Dieu l'a-t-il ordonné? Où l'a-t-il commandé? Comment prouveras-tu que l'Église te communique son intention pour dire ta messe privée? Si tu n'as point la parole de Dieu pour toi, et que ce soit les hommes qui t'aient enseigné sans cette parole, toute cette doctrine est un mensonge. Quelle est votre audace? Vous faites ces choses dans les ténèbres, vous abusez du nom de l'Église, et après, vous voulez défendre toutes vos abominations par le prétexte de l'intention de l'Église. tu n'as que faire de m'alléguer l'intention de l'Église. L'Église ne croit rien et ne pense rien au-delà de la parole et de l'institution du Christ, et beaucoup moins encore contre son dessein et son institution, dont j'ai déjà parlé. Car saint Paul dit, dans sa première épître aux Corinthiens, en parlant de l'Église et de l'assemblée des personnes de piété, « Nous connaissons les sentiments de Jésus-Christ. Mais comment apprendras-tu qu'une chose est selon le dessein et l'intention de Jésus-Christ et de l'Église que par la parole du Christ, par la doctrine et par la profession publique de l'Église? Comment connais-tu que l'intention et la pensée de l'Église et que l'homicide, l'adultère et l'incrédulité soient mis entre les péchés pour lesquels on peut être damné? Et comment sais-tu d'autres choses semblables que par la parole de Dieu? Si donc on doit apprendre de la parole et du commandement de Dieu ce que l'Église pense des œuvres bien ou mal faites, ne doit-on pas, à plus forte raison, apprendre de la parole de Dieu ce qu'elle pense de la doctrine? Pourquoi donc, blasphémateur, contreviens-tu dans la messe privée aux paroles claires et à l'ordre du Christ? Et pourquoi te sers-tu ensuite du nom et de l'intention de l'Église pour couvrir ton mensonge et ton impiété? Tu pars de ces misérables couleurs ton invention. Comme si l'intention de l'Église pouvait être contraire aux paroles claires et à l'intention du Christ. Quelle est cette audace prodigieuse que tu puisses profaner le nom de l'Église par un mensonge si impudent? Puisque l'évêque ne t'a fait 10 heures de messe par l'onction que pour faire, en disant les messes privées, tout ce qui est contraire aux paroles claires et à l'institution du Christ, à la pensée, à la foi et à la profession publique de l'Église, cette onction est très profane et n'a rien de saint et de sacré. Elle est même plus vaine, plus inutile et aussi ridicule que le baptême qu'on donnerait à une pierre ou à une cloche. Et Satan, poussant plus loin ce raisonnement, me dit, « Tu n'as donc pas consacré, mais tu n'as offert que du pain et du vin, comme font les païens. Et par un trafic infâme et injurieux à Dieu, tu as vendu ton ouvrage aux chrétiens, servant non à Dieu, non au Christ, mais à ton ventre. Quelle est cette abomination inouïe au ciel et à la terre? Tel est à peu près le sommaire de cette dispute. » Fin du chapitre 2, sous-chapitre 12. Enregistré par Margot. Chapitre 2, sous-chapitre 13 de Histoire curieuse et pittoresque par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Procès de magie. Les religieuses de Louviers. Vers le milieu du XVIIe siècle, florissait à Louviers un monastère de jeunes religieuses dont la piété fervente se répandait dans tout le pays en odeur de sainteté et servait depuis quelque temps à l'édification des âmes. Toutes étaient embrasées du feu de l'amour séraphique. Le recueillement, l'austérité, le silence, le goût de la retraite, l'anéantissement des passions, étaient leurs vertus familières. Leur cloître fut comparé à cette solitude ravisante que, selon le prophète, un éternel printemps enrichit de fleurs toujours nouvelles, et qui recèle dans son sein les pierres précieuses dont se construit la Jérusalem céleste. À la vue de tant de pureté, d'innocence et d'attrait, un ecclésiastique doué de la plus rare éloquence, sentit son zèle enflammé au point de rêver pour ces adorables créatures un degré de perfection encore plus exquis. Il crut concevoir la possibilité d'en faire presque des anges. C'était, dit la chronique, un homme d'une démarche grave et mesurée. Ses yeux baissés, son humble contenance, sa barbe longue et négligée, son visage pâle et de jeûne exténué, n'ôtait rien à l'ardeur de sa parole, qu'il savait merveilleusement suspendre ou précipiter à son gré. Ceux qui lui parlaient trouvait en lui une condescendance pleine de bonté. Il laissait échapper des mots enflammés qui donnaient un avant-goût du bonheur céleste. Ses messes n'étaient qu'une longue extase. Sa voix harmonieuse soupirait de sublimes actions de grâce qu'il entrecoupait de sanglots, ou qu'un silence mystérieux interrompait tout à coup dans leur plus grande véhémence. Il s'annonça à ces jeunes ouailles comme l'envoyé de l'Esprit-Saint et le dispensateur de ses grâces. Il les fortifia dans leur abnégation et dans le ferme propos où elles étaient de renoncer à tout et de tout souffrir en vue de Dieu. Il leur prêcha l'extrême simplicité du cœur et canonisa l'obéissance aveugle. Il leur dit de s'anéantir entièrement dans la contemplation divine sans avoir égard à l'entendement ni à la matérialité des sens, dont l'oubli complet était le triomphe de l'âme sainte. Élevez-vous et ne rampez plus comme le vulgaire qui s'arrête à de misérables scrupules. Volez avec l'aigle et laissez loin de vous les tempêtes et les brouillards des passions et des dérèglements humains, se dissiper et se consumer d'eux-mêmes dans la basse région de l'âme. Mourez dans l'extase et dans l'union de l'esprit avec Dieu, sans vous occuper de ce qui se passe au-dessous. Les vierges illuminées comme vous n'ont point à faire avec les fardeaux communs. En elles, l'amour opère tout. Elles sont libres de la liberté du Christ. La grâce est à vous, l'onction de l'Esprit-Saint, et des essences épurées comme la vôtre s'abaisseraient à repousser la convoitise de la chair, à lutter avec ses assauts. Non, cette ennemie grossière est indigne de vous. Vous auriez beau la combattre, elle reviendrait toujours à la charge pour troubler la paix intérieure et l'ineffable repos sans lequel il n'y a pas d'adhésion possible avec le souffle divin. Il faut donc mortifier la honte et confondre le péché en évitant de le discerner et de le voir, parce qu'il n'y en a plus, dès que l'âme est sans distraction unie à Dieu. Voilà, mes tendres colombes, la vie cachée dont j'avais à vous révéler les mystères, et dans laquelle vous trouverez des joies inconnues et des délices sans fin. Pour entretenir les jeunes sœurs dans ces idées, qui, on le voit, n'étaient pas tout orthodoxes, il leur prêtait les livres qui en étaient remplis. Il avait dit à l'évêque d'Évreux, « Je ferai de ce monastère un tabernacle dont les murailles s'élèveront jusqu'aux nues, où les anges viendront converser et dont la renommée s'étendra par-delà les siècles. » Quelques affaires qu'il eut à Rome et à Paris interrompirent le cours de ses instructions. Et à peine fut-il de retour que la mort, qui vint le surprendre, arrêta le cours de ses ambitieux projets. Mais il avait éveillé, dans l'âme des jeunes sœurs, des illusions et des idées d'orgueil, dont l'esprit de malice s'empara pour les perdre. Ici, les nuages s'agglomèrent et l'horizon est plus sombre. Un certain prêtre, nommé Mathurin Picard, desservait avec son vicaire, Thomas Bouillet, une petite cure au Ménil-Jourdain, près Louviers. En qualité de confesseur, il avait eu charge d'âme dans le couvent. Mais depuis quelque temps, ce que l'on rapportait des pratiques suspectes auxquelles il se livrait, la lui avait fait perdre. Il conserva néanmoins assez de crédit pour faire recevoir, parmi les religieuses, comme sœur converse, une jeune fille fort belle nommée Madeleine Bavant. Dès lors, une étrange perturbation bouleversa cette maison. À l'arrivée de Madeleine Bavant, on remarqua, disons-nous, parmi les jeunes sœurs, des préoccupations inaccoutumées. Une certaine agitation s'empara d'elle. Plusieurs furent frappées de visions extraordinaires. Elles étaient saisies de pâmoisons subites. Quelques-unes tombaient dans le délire. L'évêque d'Évreux, informé de ce qui se passe, envoie le révérend père Esprit de Beau-Roger, provincial des Capucins de Normandie, à l'effet de les calmer par des sermons. Un jour que ce père, en parlant du démon, s'animait plus qu'à l'ordinaire et disait que ce n'était qu'une mouche en comparaison de la vertu divine, Madeleine ne put s'empêcher de se récrier. « Eh bien, dit-elle, on verra dans quelques jours si ce n'est qu'une mouche. » Et cinq religieuses ne tardèrent pas à ressentir d'effrayantes convulsions. On se rappela une circonstance où Madeleine avait crié au secours, en se plaignant que le diable la frappait et la renversait sur les marches de sa cellule. On conjectura que Madeleine était vouée au démon, qui ne la tourmentait que parce qu'elle lui avait donné pouvoir sur elle. L'évêque d'Évreux, en personne, procéda à l'exorcisme, à la force duquel les démons ne purent résister, et crièrent tous d'une voix que Madeleine était magicienne, et que c'était elle qui leur avait fait prendre possession du couvent, qu'elle fréquentait le sabbat, et qu'il fallait qu'on s'en méfiât, parce qu'elle y avait reçu un nouveau pouvoir de charmer par les yeux. Madeleine fut atterrée. Elle resta sans action et sans voix, et comme anéantie sous les terribles cindérèses de sa conscience qui l'écrasait, en présence de la vérité du Dieu vivant qui venait pour la confondre. On l'enferme dans une chambre séparée, où elle fait l'aveu de ses crimes, et pleine de repentance, requiert le secours de l'Église. Elle déclare qu'elle a été pervertie par le prêtre Mathurin Picard, qui l'a induite à mal en lui arrachant son consentement par ruse, que c'est lui qui l'a instruite dans l'art de la sorcellerie et qui l'a conduite au sabbat. Le juge ecclésiastique la condamna d'abord à la prison de l'officialité, malgré ses protestations d'innocence. Léviathan, exorcisé de nouveau, confirma les déclarations de Madeleine à l'encontre du dit Picard, raconta toutes les énormités de ce prêtre infâme que la mort avait heureusement frappé, et ajouta que la présence de son corps, enterré près de la grille de la communion, était la cause de l'un des plus dangereux maléfices qui affligeait le couvent. De plus, une religieuse déposa contre Picard que la veille de sa profession, il l'avait instruite à faire ses vœux au dieu Baal. Deux autres déclarèrent que pour avoir été seulement touchées par lui, elles ont ressenti comme des horreurs et sont restées pendant quelques jours dans un état complet de stupidité. L'évêque, instruit de tout cela, crut pouvoir de sa propre autorité et pour détruire les mauvaises influences du magicien défunt, ordonner qu'on exhumât son corps et qu'on le jetât dans un puits. Quelques rumeurs s'étant élevées à ce sujet, le lieutenant criminel descendit sur les lieux et dressa du tout procès-verbal pour en référer au Parlement qui en prit connaissance et qui ordonna qu'il en fût plus amplement informé. Des commissaires furent députés, la reine envoya les docteurs accompagnés de l'archevêque de Toulouse. On redoubla les exorcismes. Le vicaire Bouillé fut appréhendé et le procès poursuivi. Les registres du Parlement de Rouen et les interrogatoires devant le lieutenant criminel routier contiennent d'abominables révélations faites par Madeleine Bavan. Elle aurait volontairement, et dans le plein usage de sa raison, avoué qu'entraînée au sabbat par les séductions du magicien Picard qu'elle avait connu à Rouen, dans la maison d'une couturière, elle avait, pendant la messe sabbatique, signé un registre. Puis qu'elle s'était mariée avec un jeune homme qui n'était autre que le diable, nommé Dagon, et que dans ce mariage, elle ne ressentit que des douleurs, que néanmoins, elle signa de son sang la cédule par laquelle elle se donnait à lui. Lors de cet aveu, le diable ayant été forcé par l'exorcisme de rapporter la cédule en question, Madeleine la reconnut, que de concert avec le même magicien, elle avait composé une grande quantité de maléfices, en mêlant des hosties consacrées avec de la poudre de crapaud et du poil du bouc qu'on adore au sabbat. Que pendant l'espace de 8 mois, il ne se passa pas de semaine qu'elle ne s'y rendit, qu'elle trouvait toujours le prêtre Picard et Thomas Bouillé qui lui servaient de diacre, qu'elle y dansait à rebours à la lueur de chandelles toutes noires qui y brûlait constamment, que jalouse des honneurs que l'on y rendait à une autre femme, elle essaya, pour en mériter autant de corrompre par des maléfices deux religieuses du monastère de Louviers, que plusieurs fois, avec Picard et le diable, sous la forme d'un gros chat noir, elle a commis sur l'autel d'horribles profanations, qu'elle a souvent percé des hosties consacrées, d'où il sortait du sang qu'elle recueillait pour en faire un charme, qu'on égorgeait au sabbat des enfants nouveau-nés, et que, de leur sang et de leurs os, on composait aussi des charmes, après quoi on les faisait rôtir pour les manger, qu'elle signa des cédules et un testament où elle renonçait à Dieu et au baptême, qu'un jour de communion, elle arracha l'hostie de sa bouche, la foula aux pieds, écrivit dessus ses lettres initiales MB et en cacheta sa cédule de renonciation, signée de son sang, pris sur le cœur, qu'elle fut marquée par Picard d'un fer chaud sur les reins, où elle ressentait d'insupportables douleurs toutes les fois qu'on y appliquait des reliques ou le Saint-Sacrement. Ici, une religieuse vint déclarer qu'elle lui avait ouï dire qu'elle était vouée au démon, et que son désespoir en était si grand qu'elle consentirait à être brûlée en place publique si on lui promettait son salut, qu'elle a aidé le magicien Picard à remplir le monastère de charmes et de ligatures pour la perdition des religieuses, qu'un jour, étant sortie du chœur, elle alla s'asseoir sous un mûrier dans le jardin, et que là, le gros chat noir dont il a été parlé vint se poser sur ses épaules, en ouvrant une gueule effroyable qu'il approcha de sa bouche, sans doute pour attirer l'hostie qu'elle venait de recevoir, qu'il resta dans la même position pendant une heure environ, sans qu'elle pût proférer une seule parole, que dans une nuit de sabbat, où s'était réunie une assemblée nombreuse, on figura sur une grande hostie l'image du Christ, que l'on attacha sur une croix avec de petits clous, et qu'on perça aux côtés pour en faire sortir du sang, que non content de cet horrible sacrilège, trois magiciens allumèrent un bûcher pour y brûler l'hostie, mais que Dieu parut armé de la foudre, et qu'il extermina ceux qui allaient y jeter le précieux corps du Sauveur, qu'une autre nuit, deux étrangers richement habillés étaient venus au sabbat, soit par force, soit par curiosité, ils furent égorgés après qu'on les eut contraints à renier Dieu et l'Église. Que depuis la mort du curé Picard, elle fut transportée dans la grange où le cadavre de ce magicien, soutenu sous les bras par une épouvantable figure, lui parla comme s'il eût été vivant, et lui demanda si elle pensait à remplir la promesse qu'elle lui avait faite de le rejoindre bientôt. À quoi elle répondit affirmativement, qu'enfin, dans les prisons d'Évreux, elle souhaita ardemment la mort, et que des démons lui apportèrent d'abord du verre pilé qu'elle avala sans pouvoir mourir, malgré les flots de sang qu'elle vomit, et en second lieu, un couteau dont elle se coupa les veines du bras et de la gorge et qu'elle se plongea dans le ventre jusqu'aux manches, sans réussir davantage à se donner la mort. Que depuis, elle avait déclaré que c'était le diable qui lui avait fait ses blessures. Quant à Picard, l'enquête établit qu'à l'aide de sacrilèges et de paroles magiques, il dénouait l'aiguillette aux personnes auxquelles Bouillé, son vicaire, avait jeté des charmes, qu'un jeune homme étant venu lui demander des fleurs pour la fête du Saint-Sacrement, il lui permit d'en cueillir dans son jardin, avec défense expresse de toucher à un coudrier qui s'y trouvait, mais que celui-ci, n'ayant pas tenu compte de la défense, trois gros chiens noirs parurent tout à coup et lui jetèrent d'affreux regards, que Picard fréquentait criminellement une mère et ses deux filles, et qu'il ne se passait pas de semaine qu'il ne se rendît au sabbat, qu'on l'entendit blasphémer et se plaindre de n'avoir pas été étouffé dès le berceau, que son valet le surprit causant dans le presbytère avec un grand homme noir qui s'était introduit, quoique tout fût fermé, et que Picard lui confessa que c'était le diable, qu'il fut surpris aussi, plusieurs fois, par le sacristain avec Madeleine Bavan dans la chapelle de Lorette, au monastère de Louviers, et qu'il y fit des malédictions sur la croix du clocher qui n'était pas encore posée, qu'une fois, ayant placé une hostie dans le rond du soleil d'or du Saint-Sacrement, une bête monstrueuse y darda sa langue et en occupa toute la vitre, qu'il s'efforça d'entraîner plusieurs personnes au sabbat, qu'il prédit à la tourière du monastère de Louviers qu'il serait brûlé par ordre de la justice, et qu'elle serait la première à déposer contre lui, et jetterait la première pierre sur son cadavre, ce qui se vérifia, qu'un homme, étant venu lui apporter une lettre, le trouva vis-à-vis d'un inconnu vêtu de noir, et l'entendit pousser un cri effroyable, que l'inconnu lui demanda pourquoi il tremblait, qu'en sortant, la porte se referma sur lui avec une telle violence qu'elle faillit l'écraser, et qu'au même instant, un grand chien noir lui passa entre les jambes et disparut, qu'il promit à une religieuse de la délivrer de ses obsessions si elle voulait se confesser à lui et lui obéir en toutes choses. Ce que la dite religieuse ayant refusé, il la toucha du bout du doigt au côté, et que depuis, elle a toujours ressenti des inquiétudes et des douleurs toutes les fois qu'on y a appliqué les reliques de la vraie croix ou autre. Que c'était lui qui, au sabbat, égorgeait les jeunes enfants et présidait à l'horrible scène où leur corps servait de pâture, qu'il fit périr par ses maléfices deux religieuses de Louviers, etc. Thomas Bouillet, qui vivait encore, fut très difficile à convaincre. Jamais le moindre aveu ne sortit de sa bouche, même au milieu des plus atroces douleurs de la torture. Mais il fut déposé contre lui qu'un homme harassé de fatigue, se trouvant encore à plus d'une lieue du Ménil-Jourdain, où il se rendait avec Bouillet. Celui-ci lui dit qu'il n'avait qu'à mettre le bout du pied sur le sien, ce qu'ayant fait, il arriva presque aussitôt et sans se donner de peine. Que le même homme, s'étant plaint à lui des obstacles qu'il éprouvait dans la conclusion d'un mariage, Bouillet lui remit un billet où se trouvaient écrits les noms de 5 démons avec des caractères talismaniques, et lui indiqua certaines pratiques au moyen desquelles il devait venir à bout de ce qu'il désirait, qu'un prêtre, scandalisé de ses désordres, lui ayant reproché de s'être voué aux démons, et l'ayant défié de déclarer qu'il y renonçait, Bouillet s'y refusa constamment, qu'il donnait des maladies et les guérissait avec des sortilèges, qu'un jour, pendant matine, il tomba dans l'église, et qu'il parut alors effroyable, qu'il se tordait en se roulant, qu'il avait le visage noir, les cheveux hérissés et la langue hors de la bouche, qu'il débauchait les filles en abusant de la confession, et qu'il ensorcelait les femmes à tel point que celles qui aimaient le mieux leur mari ne pouvaient plus les sentir et leur jetaient des bâtons à la tête, que se trouvant à une noce, sous prétexte de bénir le lit nuptial, il y jeta un charme, et que toute la nuit, les nouveaux époux furent tourmentés et frappés de vertige, qu'on lui surprit souvent entre les mains des livres de magie, qu'il avait toujours écrit dans sa poche quelques noms de diable pour s'en faire assister aux besoins, qu'il se vantait de se coucher sur des brasiers ardents, sans éprouver le moindre mal, ce qu'en effet plusieurs personnes l'ont vu faire, qu'il s'appropria une somme d'argent qu'on avait caché avec le plus grand soin, qu'il se rendait exactement au sabbat où il adorait le bouc et commettait toutes sortes d'abominations et d'impuretés. On ajoutait qu'une nuit, pour sceller plus fortement leur détestable association, la reine du sabbat, Bouillet et Madeleine Bavan, se retirèrent de la bouche des hosties consacrées, les piquèrent, en firent jaillir du sang, puis échangèrent entre eux les 4 hosties, qu'ils se présentèrent en signe d'alliance, que Bouillet se fit désigner par Picard pour succéder à ce dernier dans la continuation de ses sortilèges et des maléfices pratiqués dans le monastère de Louviers, que Madeleine Bavan promit de lui obéir comme elle avait obéi à Picard, et qu'elle signa avec lui le papier de blasphème. Qu'au retour du grand sabbat, ils en firent un petit dans le cœur du couvent, que dans la confrontation de Madeleine avec Bouillé, ce dernier lui toucha le bras et lui fit d'horribles menaces, en lui ordonnant de rétracter tout ce qu'elle avait dit contre lui. Qu'en effet, elle fut agitée de frissons et qu'elle perdit l'usage de ses sens, tandis que Léviathan, vaincu aussi par la force du charme, fut arrêté tout court lorsqu'il allait déposer contre Bouillé et garda le silence le plus obstiné. Qu'il portait sur son corps les stigmates du démon. En effet, on trouva sur son corps la marque d'un fer chaud. Enfin, qu'il avait trempé dans tous les meurtres et dans toutes les profanations qui ont été ci-dessus rapportées, etc. L'archevêque de Toulouse, accompagné de deux pénitenciers et docteurs en théologie de l'église de Paris, et M. de Morangis, conseiller du roi et maître des requêtes, furent conduits par l'évêque d'Évreux au monastère de Louviers, en se faisant assister du docteur Yvelin, médecin ordinaire du roi. Ce dernier commença par déclarer que les convulsions des religieuses ne provenaient point de maladie et ne rentraient nullement dans la spécialité de son art. Restait donc au respectable aréopage à constater l'état des choses. Après un examen scrupuleux, voici ce qui fut consigné. Hors de leurs convulsions et dans leur état ordinaire, les jeunes sœurs se font remarquer par leur douceur, leur timidité, leur air sage et modeste, et par leur naturel simple et sans malice. Mais lorsque leur frénésie les prend, elles se livrent à des mouvements et à des actes qui dépassent les forces de jeunes filles comme elles. Leur corps se courbe en forme d'arc, et sans céder des mains, elle ne touche la terre que du talon et du front. L'une d'elles, en parlant, fut renversée tout à tout et resta pliée en arc, appuyée seulement sur le talon du pied droit, pendant l'espace d'un Ave Maria. Bien que pendant l'exorcisme, leur agitation fût des plus pénibles, que leur tête frappât avec violence contre terre ou contre les murs, néanmoins, l'accès une fois passé, on ne s'apercevait pas de la moindre altération, pas de la plus petite meurtrissure. Encore qu'elles n'entendissent ni le grec ni le latin, cependant elles répondaient pertinemment aux questions faites en ces langues. Enfin, ce qui prouve la connaissance qu'elles avaient des choses cachées, c'est que plusieurs ont fait la description exacte, sans les avoir vues, des maléfices rapportés à l'évêque d'Évreux par les démons exorcisés. Que même l'une d'elles indiqua, le 29 août, l'existence d'un charme enfoui à la profondeur de 9 pieds sous terre, dans un endroit où le terrain n'avait jamais été remué, qu'on y creusa et que le charme fut trouvé tel qu'il avait été annoncé. Souvent le démon passe du corps d'une sœur dans l'autre. Un jour, Putiphar, possédant la sœur Saint-Sacrement, dit à Exitif, qui possédait la sœur Barbe. « Veux-tu que j'aille te rejoindre dans la chienne que tu tiens ?» À quoi, Exitif ayant répondu affirmativement, la migration se fit, et la sœur Saint-Sacrement devint libre, s'agenouilla au pied de l'autel et récita son bréviaire jusqu'à l'aude, tandis que Barbe restait, les bras raides comme des barres de fer, le pied tendu et la tête si pesante, qu'il fut impossible de la soulever pendant une demi-heure. Mais au moment où la sœur Saint-Sacrement allait communier, soudain Putiphar la reprit en criant « Halte là ! C'est ce que je ne souffrirai pas !» Et en effet, cette pauvre fille subit de nouveaux tourments, tandis que sœur Barbe commença à se remuer et ne parut plus agitée par des mouvements de son démon ordinaire. Ce jeu fut répété 2 fois. D'après l'aveu de Putiphar, ce qui rend la tête si lourde, c'est la lutte des démons à qui aura la place la plus élevée dans le cerveau de la patiente. Quelquefois, au contraire, le démon imprime une légèreté extraordinaire. Ainsi, la sœur Marie du Saint-Esprit, lancée par Dagon sur l'ouverture d'un puits, s'y tint en travers, ou suspendue par un doigt ou par un orteil. Une autre sœur fut enlevée sur un mûrier et posée sur le sommet des plus petites branches sans même les faire fléchir. Elle parcourut ainsi le tour de l'arbre. On en a vu plusieurs, malgré les os sésamoïdes, plier entièrement les doigts en arrière. À Caron, démon de la sœur Marie de Jésus lui fit battre le cœur au haut de l'épaule. Une autre fois, il la jeta dans le feu sans la brûler. Quelques-unes se roulaient et se tortillaient comme des serpents. Autre prodige, Marie Chéron, sœur toute jeune et à peine en âge de prendre le voile, possédée par le démon Grongat, fit un discours si admirable qu'elle tint en suspens, par la douceur et la grâce de ses paroles, l'esprit de tous les assistants, parmi lesquels se trouvaient les plus fameux cultivateurs, qui avouèrent n'avoir jamais rien entendu de si éloquent. Putiphar, conjuré de sortir du corps de Marie, ne s'en échappa qu'après l'avoir torturée si longtemps qu'elle tomba évanouie. Lorsqu'on voulut la faire revenir à elle, on trouva ces mots écrits sur son sein, en lettres rouges et surmontées d'un cœur percé. Vive Jésus ! Que le démon avait été contraint de prononcer en s'éloignant. Oxarath, qui possédait la sœur Nicolas, la fit beaucoup souffrir, mais poussé lui-même à bout par les ferventes invocations des prêtres, il sortit en disant « Je confesse Dieu trin et un, je confesse celui qui est et devant qui tout n'est rien. » Léviathan, le démon de Madeleine Bavant, fut tellement accablé sous le poids de l'exorcisme qu'il prêcha cette fille et l'exhorta à se convertir. Ce qui surprenait, c'était d'entendre ces religieuses, habituées à tant de retenue, proférer les blasphèmes les plus hardis et les propos les plus indécents. Elles donnaient la description du sabbat, du bouc qu'on y adorait et des horreurs qui s'y commettaient, aussi exactement que si elles y eussent assisté. Elles témoignaient l'aversion la plus profonde pour les sacrements et pour la confession. Et une fois libres, elles ne désiraient rien plus ardemment. Elles louaient et priaient avec une admirable onction. Puis, tout à coup, elles invoquaient l'enfer, maudissaient le Seigneur et tenaient des propos infâmes, résonnant d'ailleurs fort bien en tout le reste. Voilà pour les obsessions. Passons aux visions. La sœur Barbe vit en pleine nuit des flambeaux allumés. La sœur Marie aperçut un fantôme s'asseoir au pied de son lit et une autre fois, une grosse tête noire la regardait avec des yeux perçants. La sœur Anne de la Nativité voyait toute la nuit une figure immobile devant elle. Le jour, partout où elle voulait aller, la figure la précédait, même au chœur ou pendant la messe. Elle faisait mille contorsions et lui présentait une gueule béante lorsqu'elle ne voulait pas regarder ses postures sacrilèges. Une forme de crucifix vint aussi comme pour la préserver des illusions de cette figure et lui adressa des paroles d'intérêt et de tendresse, l'appelant son épouse, sa bien-aimée, son âme d'élite, lui promettant de la remplir de sa grâce et détachant même son bras de la croix pour l'embrasser. Mais elle se douta de la ruse, fit un mépris intérieur et tout disparut. Cependant, elle n'en fut pas quitte. Ce fut bientôt un soleil qui lui apparut si beau et si ravissant qu'elle n'avait rien vu de si merveilleux. Il sortit de cette lumière une voix qui lui dit « Ma fille, je veux que vous soyez unie avec la splendeur éternelle. Je me donne à vous pour que vous ne souffriez pas seule. Donnez-vous à moi, car je suis votre époux. Ne vous refusez point à mes grâces. » À ces mots, la sœur qui se méfiait fit un signe de croix, et la vision s'évanouit. Une autre fois, elle croyait parler à la mère abbesse, qui lui reprochait d'avoir fait mépris de la figure du Christ. Mais il lui vint dans la pensée d'aller voir au noviciat, où elle trouva la véritable mère abbesse. À ces apparitions succéda un ange dont rien n'égalait la beauté. Dieu, qui la voulait gouverner immédiatement par lui ou par ses anges, avait chargé celui-ci de venir lui enseigner les 7 degrés de perfection. Mais il ne fallait pas qu'elle révélât rien de ce qu'il lui disait, parce que les hommes ont des connaissances trop basses pour comprendre les voies de Dieu et ce qu'il peut opérer dans les âmes. Et c'est lorsqu'on ne s'en rapporte pas à lui qu'il vous livre aux démons, ainsi qu'il lui est arrivé à lui-même. Mais elle eut la prudence de déclarer qu'elle ne voulait rien faire sans s'en référer à ses supérieurs. Au même instant, elle entendit un grand cliquetis d'épées nues, et ce fut comme un nuage qui fondit devant elle. Enfin, Marie, mère de Dieu, vint un jour la trouver et l'avertit qu'elle avait fait une grande faute de repousser la grâce de son fils, qui, pour mieux la toucher, avait bien voulu se remettre sur la croix, et qui avait ensuite revêtu des splendeurs éblouissantes, qu'il était encore temps de revenir à des récipiscences, qu'elle n'avait besoin pour cela que de s'abandonner à ses conseils, et qu'elle ne tarderait pas à jouir des célestes bienfaits. Tout cela ne réussit pas mieux, et la jeune fille sut par la prière se préserver de cette nouvelle tentation. La sœur Marie du Saint-Sacrement vit de grosses étincelles de feu tomber la nuit du plancher sur sa couverture. Quand elle se servait de sa discipline, on la lui arrachait pour la lui jeter à la figure. Une nuit, on frappa de petits coups à la porte de sa cellule. C'était une religieuse qui tenait une bougie ardente. Son voile d'étamine lui couvrait le visage et ses mains se cachaient dans de longues manches. Elle lui dit « N'ayez pas peur, je suis la sœur de la Passion, autrefois religieuse en ce couvent. Je suis retenue en purgatoire où je souffre beaucoup et personne n'a pitié de moi. Je suis venue à vous parce que je connais votre bon cœur. » Et là-dessus, elle lui proposa de faire à son intention diverses pratiques, dont Marie sut bien discerner le danger et qu'elle eut l'habileté d'éluder. Un autre jour, c'est une de ses compagnes qui vient lui faire la confidence qu'elle a découvert que le confesseur est amoureux d'elle et qu'il compose des philtres pour la séduire, et que les hosties qu'il lui donne pour communier ne sont que des charmes d'amour. Et en effet, un matin, celui-ci vint dans sa chambre et, après beaucoup de discours mielleux, finit par lui déclarer sa passion et lui cita des passages de l'Écriture qui permettaient d'aimer. À ces mots, Marie resta interdite et lui dit, en lui jetant de l'eau bénite, « Sors, infâme, au nom de Jésus-Christ !» Quand le véritable père confesseur l'envoya quérir tout de bon, elle ne voulut plus y aller, et ce ne fut pas sans peine que celui-ci parvint à lui démontrer que tout cela n'était qu'une imposture et qu'elle avait été illudée par des fausses apparences. Enfin, 19 jours de suite, un archange de lumière apparut à Marie comme une belle aurore qui venait éclairer sa cellule. « Je viens te trouver, lui dit-il, mais à condition que tu garderas le secret. Il est écrit, « Mon secret est à moi. » L'épouse portera l'époux sur son cœur comme un bouquet de myrte et sur son bras comme un cachet. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Dès qu'on recherche l'approbation de l'homme, Dieu s'éloigne. C'est un maître qui ne veut pas de second et qui ne fait connaître le ravissement de ses consolations célestes et de ses complaisances d'amour qu'aux âmes qui ne se confient qu'à lui seul. En un mot, il semblait lui développer des principes de vertu si sublimes et si purs qu'elle fut persuadée que cette fois, Dieu voulait lui enseigner le chemin de perfection. L'archange, en lui parlant, posait la main sur son cœur, et elle se sentait entraînée vers Dieu par un amour si doux et si chaste qu'elle succombait sous le fait. Il lui apparaissait tous les jours plus lumineux, et l'entretenait de la gloire de Dieu et de l'immortalité de l'âme fidèle. Il lui procurait des ravissements d'esprit, lors desquels elle pensait voir des choses admirables et entendre des harmonies sans fin. Il lui promettait de la faire sommeiller entre les bras de l'époux. de ce sommeil mystique qui est le complément de la grâce, et toujours il a pressé de lui donner son cœur. Mais il en vint à des flatteries si ouvertes et à des tendresses si vives qu'elle devina le fourbe et qu'elle le força de fuir en lui criant « Misérable trompeur, je te renonce. Sois confondu par la vertu de mon sauveur. » Ce fut alors que, pour s'en venger, l'esprit des ténèbres la remplit d'épouvante, en se changeant tour à tour en lion rugissant, en dragon enflammé, en tonnerre et en éclair. Le jour fixé pour exorciser entièrement le monastère étant venu, on conjura les démons, par la vérité éternelle et par la souveraine majesté de Dieu, de cesser de mettre le trouble dans le couvent. Putiphar indiqua le premier où le maléfice qui affligeait la sœur Saint-Sacrement était déposé. On le trouva derrière le lambris de sa cellule. Il fit aussi découvrir le charme qui inspirait aux religieuses l'horreur des sacrements. Il était enfoui à 6 pieds de profondeur sous le maître-autel. Léviathan retira de la sacristie la ligature qui excitait chez les sœurs des tentations d'un autre genre. Le charme de dissension fut décroché entre les 4 portes de l'allée du cœur, et ainsi de suite jusqu'à 12. Le plus souvent, on était obligé de creuser très avant dans la terre, et c'était une religieuse qui, au moyen d'une longue perche, montrait le charme. Elle en donnait d'avance la désignation, spécifiant toutes les pièces, nœuds, ligatures, caractères, lettres, etc., dont chacun était composé, et tout se trouvait juste. Mais dès que ces filles apercevaient les maléfices, elles tombaient à la renverse et jetaient des cris horribles. Le charme paraissait d'abord tout éclatant, mais il se ternissait à mesure qu'on le regardait. Dès que tous les charmes furent levés, l'esprit des religieuses devint libre et leur entendement sortit des ténèbres. Telles sont les scènes dont les circonstances furent sérieusement constatées par les éminents personnages que nous avons désignés plus haut. L'évêque d'Évreux, dans une lettre écrite à la reine en janvier 1644, déclare formellement qu'il en a été témoin oculaire. Les commissaires préposés, comme il a été dit ci-dessus, à l'examen de cette affaire, conclurent que les convulsions des religieuses ne pouvaient provenir d'aucun artifice, ni procéder de folie ou de maladie. Il fut décidé le 10 septembre 1643 que 5 d'entre elles étaient véritablement possédées du démon et que les autres étaient seulement obsédées et maléficiées. Le 21 août 1644, le Parlement de Rouen rendit un arrêt dont suivent les principales dispositions. La cour, les grandes chambres, Tournelle et Eddy assemblés, en ce qui concerne Madeleine Bavant, vu la sentence de l'évêque d'Évreux du 12 mars 1643, par laquelle Madeleine Bavant a été déclarée dûment atteinte et convaincue d'apostasie, sacrilège et magie, d'avoir été au sabbat et assemblée de magiciens par plusieurs et diverses fois, d'avoir obéi au diable et obtenu d'eux de pouvoir d'employer ses charmes sur telle personne qu'elle voudrait, d'en avoir fait mettre en plusieurs lieux du monastère, de s'être donné au diable diverses fois par billets et cédules signées de son sang, voire même d'être retombée de cette abomination après renonciation par elle faite entre les mains du dit évêque, d'avoir abusé des saints sacrements et particulièrement pris la sainte hostie lorsqu'elle communiait pour être portée au sabbat et employée à faire des charmes et autres choses abominables, d'avoir livré honteusement son corps au diable, aux sorciers et autres personnes, d'avoir voulu séduire plusieurs religieuses du monastère et les attirer par ses charmes à son affection démesurée et à mauvaise fin, d'avoir conspiré avec sorciers et magiciens dans leurs assemblées et dans le sabbat, au désordre et ruine générale du monastère, perdition des religieuses et de leurs âmes. pour la réparation desquels crimes ladite Bavan avait été déclarée indigne de porter à l'avenir le nom de religieuse, et il avait été ordonné qu'elle serait dépouillée du saint voile et habit de religieuse, et revêtue d'habits séculiers, qu'elle serait confinée à perpétuité tant qu'il plairait à Dieu de conserver ses jours dans la basse fosse ou un des cachots des prisons ecclésiastiques de l'officialité, pour y jeûner au pain et à l'eau 3 jours la semaine, d'y faire à statuer définitivement jusque après l'audition de Simone Gauguin, dite la petite mère Françoise, ci-devant supérieure du monastère et plusieurs autres religieuses, la sentence conservant jusque-là son effet. En ce qui concerne Picard, vu ce qu'il résulte des exorcismes et examens de ladite Bavan et de l'information faite contre la mémoire du dit Picard, par desquels il apparaît suffisamment qu'il a séduit ladite Bavan et commis avec elle plusieurs sacrilèges, et par ses sortilèges, charmes et magies, causé le désordre arrivé aux religieuses du dit monastère, en conséquence desquelles il avait encouru l'excommunication et s'était rendu indigne de la sépulture en lieu saint. En ce qui concerne Bouillet, vu le procès-verbal de sa visitation faite par expert médecin, attestant que le dit Bouillet était marqué de la marque des sorciers, reconnu par l'insensibilité du dit Bouillet à l'endroit de la dite marque. Et vu ce qui résulte des preuves du procès, a déclaré et déclare lesdits Picard et Bouillet, dûment atteints et convaincus des crimes de magie, sortilèges et autres impiétés et cas abominables, commis contre la majesté divine, mentionnés au procès, et la mémoire du dit Picard, condamné comme impie et détestable, pour punition et réparation desquels crimes, ordonne que le corps du dit Picard et le dit Bouillet seront ce jour-là délivrés à l'exécuteur des sentences criminelles, pour être traînés par les rues et lieux publics de cette ville. Et, étant le dit Bouillet devant la principale porte de l'église cathédrale de Notre-Dame, faire amende honorable, rester pieds nus et en chemise, ayant la corde au cou, tenant une torche ardente du poids de 2 livres, et là, demander pardon à Dieu, au roi et justice. Ce fait, être traîné en la place du vieil marché, et là, y être, le dit Bouillet, brûlé vif, et le corps du dit Picard mis au feu, jusqu'à ce que les 10 corps soient réduits en cendres, lesquels seront jetés au vent, déclarent leur bien acquis et confisqués au roi, et avant l'exécution du dit Bouillet, ordonne qu'il sera appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour déclarer ses complices, ordonne qu'il sera procédé à la translation des religieuses du monastère de Louviers dans un autre monastère, chez leurs parents, ou en telle maison religieuse ou séculière, qui sera advisée, jusqu'à ce qu'autrement il y ait été pourvu. On est sans doute curieux de connaître le résultat du plus ample informé touchant Madeleine Bavan. Mais quelques recherches qu'on ait faites, quelques pièces que l'on ait compulsées, on n'a rien trouvé qui pût fournir le moindre indice à cet égard. Fin du chapitre 2, sous-chapitre 13. Enregistré par Margot.
Chapitre 2, sous-chapitre 14, partie 1, de Histoire curieuse et pittoresque par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Martine. Histoire des hommes qui ont passé pour sorciers. De la rue Abel. Une des vengeances les plus singulières et les plus ordinaires à la fois dont les sorciers et magiciens usaient autrefois envers les jeunes gens dont ils avaient ou prétendaient avoir à se plaindre, consiste à nouer l'aiguillette. opération cabalistique au moyen de laquelle ils rendent les jeunes mariés impuissants et même tout à fait incapables de consommer le mariage. C'est d'un méfait de ce genre que se rendit coupable en 1582 Abel de la Rue, savetier, domicilié à Coulommiers, au préjudice de Jean Moureau et de Phrasie Fleuriot, jeunes gens de cette ville, violemment épris l'un de l'autre depuis longtemps, et qui ne furent pas médiocrement surpris et affligés, après avoir quitté la salle de bal pour la chambre nuptiale, de rencontrer, à l'accomplissement de leurs désirs les plus vifs, des obstacles inaccoutumés et de nature tout à fait insurmontable. La mariée se désolait. Le marié jurait ses grands dieux qu'il ferait rompre vif ou qu'il romprait lui-même le coquin de sorcier qui lui avait noué l'aiguillette. Mais qui était ce sorcier? Voilà ce qui était difficile à découvrir. Pourtant, après y avoir réfléchi, Jean Moureau se rappela que le savetier, Abel de la Rue, avait quelquefois jeté des regards de convoitise sur sa fiancée. Ce dont lui, Jean, s'étant plaint avec menace au dit savetier, ce dernier lui avait rionné en lui disant « Tu pourras aller à la noce, mais tu n'iras jamais au baptême. » Phrasie Fleuriot se ressouvint de son côté de quelques mauvais propos que lui avait tenus le savetier. Et les jeunes mariés, ne doutant plus que cet homme ne fût la cause de leur déplaisir, s'empressèrent de porter plainte contre lui au lieutenant civil et criminel du bailliage de Coulommiers. Arrêté sur le champ, Abel de la Rue nia d'abord le fait de maléfice qui lui était imputé. Mais le lieutenant qui l'interrogeait, lui ayant montré en perspective la question ordinaire et extraordinaire, s'il persistait à nier absolument, sans autre explication, le savetier commença à faire des aveux. Et une fois entré dans cette voie, il ne scella plus rien. J'étais encore bien jeune, dit-il, lorsque je fus mis au couvent des Cordeliers à Meaux, en Brie. Le maître des novices, qui s'appelait Caillet, m'ayant battu un jour et horriblement maltraité, je me promis de me venger. Dès lors, cette pensée ne me quitta plus, et, un jour que j'étais seul dans les greniers du couvent, je songeais aux moyens d'exercer cette vengeance dont j'avais si vive soif, lorsque tout à coup, un gros animal noir, cornu et barbu m'apparut et me dit « Donne-toi à moi et je te fournirai tous les moyens de te venger. » À deux mois de là environ, continua Abel de la Rue, j'étais dans la sacristie du couvent, lorsqu'un grimoire vint s'offrir à mes yeux. Je l'ouvris, j'en lus quelques lignes, et aussitôt un grand homme sec, blême et vêtu de noir m'apparut. Ce personnage m'ayant demandé si j'avais lu dans le grimoire, de mon propre mouvement, je répondis affirmativement. Alors il m'enleva, et pour me montrer sa puissance, il me transporta au sommet du palais de justice de Meaux. « Puisque vous êtes si puissant, lui dis-je, vous pouvez bien me faire sortir pour toujours du couvent dont le séjour m'est insupportable. » Mais au lieu de me répondre, il me rit au nez, me saisit de nouveau en me disant « Ne craignez rien, je suis maître Rigoux, et nul être humain n'a de pouvoir sur moi. » À peine avait-il achevé ces mots qu'il disparut et que je me retrouvai dans la sacristie du couvent. À mon arrivée, Pierre Berson, docteur en théologie, et Caillet me reprirent aigrement d'avoir lu dans le grimoire et me menacèrent du fouet. Tous les religieux descendirent à la chapelle et chantèrent un salué. On me fit coucher entre deux novices. Le lendemain, comme je descendais pour aller à l'église, maître Rigoux m'apparut et me donna rendez-vous sous un arbre qui est près de Vaucourtois, sur le chemin de Meaux, à Coulommiers. Je repris les habits que j'avais à mon entrée dans le couvent et j'en sortis par une petite porte de l'écurie. Rigoux m'attendait. Il me mena chez maître Pierre, berger de Vaucourtois. Maître Pierre me reçut fort bien. J'allais conduire les troupeaux avec lui. Deux mois après, ce berger me promit de me mener à l'assemblée parce qu'il n'avait plus de poudre. L'assemblée devait se tenir dans 3 jours, et nous étions dans l'avant de Noël 1575. Maître Pierre envoya sa femme coucher dehors et me fit mettre au lit à 7 heures du soir. Je ne dormis guère. Il avait mis au coin du feu un balai de genêt, long et sans manches. Vers les 11 heures du soir, j'entendis un grand bruit. Maître Pierre me dit qu'il fallait partir. Il prit de la graisse, s'en frotta les aisselles et me mit sur le balai. Maître Rigoux enleva mon maître par la cheminée. Je le tenais au milieu du corps. La nuit était obscure, mais un flambeau nous précédait. Je vis dans cette course aérienne l'abbaye de Rebette. Nous descendîmes dans un lieu herbu et nous trouvâmes une grande assemblée. J'y reconnus plusieurs personnes, et notamment une sorcière qui avait été pendue à l'Agny. Le diable ordonna par la bouche d'un vieillard de nettoyer la place. Maître Rigoux se transforma en un grand bouc noir, lequel commença à gronder et à tourner autour de l'assemblée, qui se mit aussitôt à danser à revers, le visage dehors et le cul tourné vers le bouc. « Mais, lui dit le bailli, qui assistait le lieutenant criminel, êtes-vous sûr que l'on ne chantait point ?»« Assurément, on n'a point chanté, répondit Abel, mais la danse dura jusqu'à 2 heures, puis on adora le bouc, et je vis ensuite que ce bouc courba ses 2 pieds de devant et leva son cul en haut, et alors que certaines menues graines, grosses comme têtes d'épingle, qui se convertissaient en poudre fort puante, sentant le soufre et la poudre à canon, étaient tombées sur plusieurs drapeaux, et que le plus vieux de la dite assemblée avait commencé à marcher à genoux du lieu où il était, et s'était incliné vers le diable, et avait celui baisé en la partie honteuse de son corps. Et que cela fait, le dit vieil homme recueillit son drapeau qui contenait des poudres et des graines. Chaque personne de l'assemblée ayant fait de même, je m'approchai du bouc à mon tour. Et ce dernier, m'ayant demandé ce que je voulais de lui, fidèle à ma pensée de vengeance, je lui répondis que je voulais savoir nouer l'aiguillette à mes ennemis. Alors le diable, qui trouvait sûrement cela au-dessous de lui, m'indiqua Maître Pierre comme pouvant m'indiquer cette science, et effectivement je l'appris de ce dernier. Depuis, le diable, se repentant peut-être de m'avoir fait connaître tant de choses extraordinaires, tenta de me noyer alors que j'allais en pèlerinage à Saint-Loup, mais il n'y put parvenir. Lesquelles choses étant vraies, et moi, Abel de la Rue, les disant en toute connaissance de cause, j'en demande merci à Dieu, au roi, à mon Seigneur et à justice. Malgré ses aveux, ou plutôt à cause de ses aveux, et sur les conclusions du procureur fiscal, le malheureux de la Rue fut condamné le 6 juillet 1582 en réparation des crimes de magie et sortilège, et notamment pour avoir noué l'aiguillette à plusieurs personnes lors de la réception du sacrement de mariage, à être brûlé vif. Le malheureux savetier s'empressa de faire appel au Parlement de Paris, qui, sur les mêmes motifs, mais usant d'indulgence, le condamna seulement à être pendu et étranglé jusqu'à ce que mort s'ensuivît sur la place du marché de Coulommiers. Arrêt qui fut rendu le 20 juillet 1582 et exécuté le 23 du même mois. Et pourtant, il y a encore des sorciers. Agrippa Henri Corneille, né à Cologne, en 1486, fut un des plus savants médecins et philosophes de son temps, et aussi un très puissant magicien, au dire de la plupart des écrivains biographes qui se sont occupés de lui. Accusé souvent par ses contemporains de magie, sorcellerie et maléfice, il fut plusieurs fois dans la nécessité de s'expatrier pour échapper aux conséquences terribles de cette accusation, si formidable alors. À ces accusations s'en joignaient d'autres qui avaient peut-être plus de fondement. Agrippa s'occupait beaucoup d'alchimie, il croyait à la transmutation possible des métaux, et il travaillait avec ardeur à ce qu'on appelait alors le grand œuvre. Qu'il ait ou qu'il n'ait pas trouvé la pierre philosophale, nous ne savons. Mais il serait possible qu'en cherchant à faire de l'or avec du cuivre, il eût trouvé le moyen de donner au cuivre l'apparence de l'or, ce qui expliquerait ce que disent de lui plusieurs de ses historiens, à savoir que dans ses voyages, il payait sa dépense dans les hôtelleries avec de la monnaie de très bon aloi en apparence, mais qui changeait promptement d'aspect entre les mains des hôteliers et se métamorphosaient en rondelles de métal sans valeur. Du temps qu'il professait la philosophie à Turin, dit un de ses historiens, un de ses écoliers lui déroba un manuscrit contenant d'horribles conjurations. Et ne sachant ce que contenait ce manuscrit, il entreprit de le lire. Mais à peine eut-il prononcé quelques-unes des formules qu'il contenait, que le diable lui apparut, lui reprocha les tortures qu'il venait de lui infliger par les conjurations qu'il avait prononcées, et finit par le saisir à la gorge et l'étrangler. Agrippa, étant rentré peu d'instants après, reconnut aisément la griffe du diable empreinte sur le cou de l'écolier. Craignant qu'on ne l'accusât d'avoir tué ce jeune homme, il prit le livre à son tour, força le diable à reparaître, et lui ordonna d'entrer dans le corps de l'écolier et de lui faire faire à plusieurs reprises le tour d'une place publique et de l'y abandonner ensuite, ce à quoi le diable se conforma, forcé qu'il était d'obéir à la puissance de ce grand magicien. On raconte encore qu'Agrippa avait constamment près de lui son démon familier sous la forme d'un chien noir portant un collier sur lequel étaient gravés des caractères kabbalistiques. Que, lorsqu'il arriva à l'article de la mort, il éclata en reproches et en malédictions contre ce chien qu'il accusait de l'avoir perdu, et que cet animal alla sur le champ se jeter à la rivière et ne reparut jamais. Agrippa composa et publia plusieurs ouvrages, parmi lesquels on remarque particulièrement le livre intitulé « De la vanité des sciences et le traité de la philosophie occulte », qui lui attira un redoublement de persécutions et motiva son emprisonnement à Bruxelles, où il se trouvait alors. Voici en quels termes le démonologue de Langres parle d'Agrippa dans son tableau de l'inconstance des démons. Agrippa composa trois livres assez grands de la magie démoniaque, mais il confessa qu'il n'avait jamais eu aucun commerce avec le démon, et que la magie et la sorcellerie, hors les maléfices, consistaient seulement en quelques prestiges que fait l'esprit malin pour tromper les ignorants. Ce misérable fut si aveuglé du diable auquel il s'était soumis qu'encore qu'il connût très bien sa perfidie et ses artifices, il ne les put éviter, étant si bien enveloppé dans les raies d'issolu diable qu'il lui avait persuadé que s'il voulait se laisser tuer, la mort n'aurait nul pouvoir sur lui et qu'il le ressusciterait et le rendrait immortel. Ce qui advint autrement car Agrippa s'étant fait couper la tête, prévenu de cette fausse espérance, le diable se moqua de lui et ne voulut lui redonner la vie pour lui laisser le moyen de déplorer ses crimes. Voici sur le même sujet un récit que nous empruntons à un écrivain moderne. « Il m'est arrivé une aventure si étrange que je vais vous la raconter. Vous saurez qu'hier, fatigué de l'attention que j'avais mise à lire un livre de prodiges, je sortis à la promenade pour dissiper les ridicules imaginations dont j'avais l'esprit rempli. Je m'enfonçais dans un petit bois obscur, où je marchais environ un quart d'heure. J'aperçus alors un manche à balai qui vint se mettre entre mes jambes et sur lequel je me trouvais à califourchon. Aussitôt je me sentis volant par le vague des airs. Je ne sais quelle route je fis sur cette monture, mais je me trouvais arrêté sur mes pieds au milieu d'un désert où je ne rencontrais aucun sentier. Cependant je résolus de pénétrer et de reconnaître les lieux. Mais j'avais beau pousser contre l'air, mes efforts ne me faisaient trouver partout que l'impossibilité de passer outre. À la fin, fort harassé, je tombai sur mes genoux, et ce qui m'étonna fut d'avoir passé, en un moment, de midi à minuit. Je voyais les étoiles luire au ciel avec un feu bluettant. La lune était en son plein, mais beaucoup plus pâle qu'à l'ordinaire. Elle s'éclipsa trois fois, et trois fois dépassa son cercle. Les vents étaient paralysés, les fontaines étaient muettes. Tous les animaux n'avaient de mouvement que ce qui leur en faut pour trembler. L'horreur d'un silence effroyable régnait partout. Et partout, la nature semblait attendre quelque grande aventure. Je mêlais ma frayeur à celle dont la face de l'horizon paraissait agitée, lorsqu'au clair de la lune, je vis sortir d'une caverne un grand et vénérable vieillard vêtu de blanc, le visage basané, les sourcils touffus et relevés, l'œil effrayant, la barbe renversée par-dessus les épaules. Il avait sur la tête un chapeau de verveine et sur le dos une ceinture de fougère de mai tressée. À l'endroit du cœur était attachée sur sa robe une chauve-souris à demi morte et autour du cou un carcan chargé de sept différentes pierres précieuses dont chacune portait le caractère de la planète qui la dominait. Ainsi mystérieusement habillée, portant à la main gauche un vase triangulaire plein de rosée, et à la droite une baguette de sureau en sève, dont l'un des bouts était ferré d'un mélange de tous les métaux, il baisa le pied de sa grotte, se déchaussa, prononça en grommelant quelques paroles obscures, et s'approcha à reculons d'un gros chêne, à quatre pas duquel il creusa trois cercles l'un dans l'autre. La nature, obéissant aux ordres du nécromancien, prenait elle-même, en frémissant, les figures qu'il voulait y tracer. Il y grava les noms des esprits qui présidaient au siècle, l'année, à la saison, au mois, au jour et à l'heure. Ceci fait, il posa son vase au milieu des cercles, le découvrit, mit un bout de sa baguette entre ses dents, se coucha la face tournée vers l'Orient et s'endormit. Vers le milieu de son sommeil, j'aperçus tomber dans le vase 5 grains de fougère. Il les prit tous quand il fut éveillé, en mit 2 dans ses oreilles, 1 dans sa bouche. Il replongea l'autre dans l'eau et jeta le 5e hors des cercles. À peine fut-il parti de sa main que je le vis environné de plus d'un million d'animaux de mauvais augure. Il toucha de sa baguette un chat-huant, un renard et une taupe qui entrèrent dans les cercles en jetant un cri formidable. Il leur fendit l'estomac avec un couteau d'airain, leur ôta le cœur qu'il enveloppa dans 3 feuilles de laurier et qu'il avala. Il fit ensuite de longues fumigations. Il trempa un gant de parchemin vierge dans un bassin plein de rosée et de sang, mit ce gant à sa main droite et après 4 ou 5 hurlements horribles, il ferma les yeux et commença les évocations. Il ne remuait presque pas les lèvres. J'entendis néanmoins dans sa gorge un bruit semblable à celui de plusieurs voix entremêlées. Il fut enlevé de terre à la hauteur d'un demi-pied et, de fois à autre, il attachait attentivement la vue sur l'ongle de l'index de sa main gauche. Il avait le visage enflammé et se tourmentait fort. Après plusieurs contorsions effroyables, il tomba en gémissant sur ses genoux. Mais aussitôt qu'il eut articulé 3 paroles d'une certaine oraison devenue plus fort qu'un homme, il soutint sans vaciller les violentes secousses d'un vent épouvantable qui soufflait contre lui. Ce vent semblait tâcher de le faire sortir des 3 cercles. Les 3 ronds tournèrent ensuite autour de lui, ce prodige fut suivi d'une grêle rouge comme du sang, et cette grêle fit place à un torrent de feu accompagné de coups de tonnerre. Une lumière éclatante dissipa enfin ces tristes météores. Tout au milieu parut un jeune homme, la jambe droite sur un aigle, la gauche sur un lynx, qui donna au magicien 3 fioles de je ne sais quelle liqueur. Le magicien lui présenta 3 cheveux, l'un pris au devant de sa tête, les 2 autres aux tempes. Il fut frappé sur l'épaule d'un petit bâton qui tenait le fantôme, et puis tout disparut. Alors le jour revint, j'allais me remettre en chemin pour regagner mon village, mais le sorcier, m'ayant envisagé, s'approche du lieu où j'étais. Quoiqu'il cheminât à pas lents, il fut plutôt à moi que je ne l'aperçus bouger. Il étendit sur ma main une main si froide que la mienne en demeura longtemps engourdie. Il n'ouvrit ni les yeux ni la bouche, et dans ce profond silence, il me conduisait à travers des masures, sous les ruines d'un vieux château inhabité, où les siècles travaillaient depuis 1000 ans à mettre les chambres dans les caves. Aussitôt que nous fûmes entrés, « Vante-toi, me dit-il en se tournant vers moi, d'avoir contemplé face à face le sorcier Agrippa, dont l'âme est, par métempsycose, celle qui animait autrefois le savant Zoroastre, prince des Bactriens. Depuis près d'un siècle que je disparus d'entre les hommes, je me conserve ici par le moyen de l'or potable, dans une santé qu'aucune maladie n'a interrompue. De 20 ans en 20 ans, je prends une prise de cette médecine universelle qui me rajeunit et qui restitue à mon corps ce qu'il a perdu de ses forces. Si tu as considéré 3 fioles que m'a présentées le roi des salamandres, la première en est pleine. La seconde contient de la poudre de projection, et la 3e de l'huile de talc. Au reste, tu m'es obligé, puisque, entre tous les mortels, je t'ai choisi pour assister à des mystères que je ne célèbre qu'une fois en 20 ans. C'est par mes charmes que sont envoyés, quand il me plaît, les stérilités et les abondances. Je suscite les guerres en les allumant entre les génies que gouvernent les rois. J'enseigne aux bergers la patte nôtre du loup. J'apprends aux devins la façon de tourner le sas. Je fais courir les feux follets. J'excite les fées à danser au clair de la lune. Je pousse les joueurs à chercher le trèfle à quatre feuilles sous les gibets. J'envoie à minuit les esprits hors du cimetière demander à leur héritier l'accomplissement des vœux qu'ils ont faits à la mort. Je fais brûler aux voleurs des chandelles de graisse de pendu pour endormir les hôtes pendant qu'ils exécutent leur vol. Je donne la pistole volante qui vient ressauter dans la pochette quand on l'a employée. Je fais présent aux laquais de ces bagues qui font aller et revenir d'Orléans à Paris en un jour. Je fais tout renverser dans une maison par les esprits follets qui culbutent les bouteilles, les verres, les plats, quoique rien ne se casse et qu'on ne voit personne. Je montre aux vieilles à guérir la fièvre avec des paroles. Je réveille les villageois la veille de la Saint-Jean pour cueillir son herbe à jeun et s'en parler. J'enseigne aux sorciers à devenir loups-garous. Je tords le cou à ceux qui, lisant dans un grimoire, sans le savoir, me font venir et ne me donnent rien. Je m'en retourne paisiblement d'avec ceux qui me donnent une savate, un cheveu ou une paille. J'enseigne aux nécromanciens à se défaire de leurs ennemis en faisant une image de cire et la piquant ou la jetant au feu pour faire sentir à l'original ce qu'ils font souffrir à la copie. Je montre aux bergers à nouer l'aiguillette le jour des noces. Je fais sentir les coups aux sorciers pourvu qu'on les batte avec un bâton de sureau. Enfin, je suis le diable Vauvert, le juif errant et le grand veneur de la forêt de Fontainebleau. Après ces paroles, le magicien disparut. Les couleurs des objets s'éloignèrent. Je me trouvai sur mon lit, encore tremblant de peur. Qu'Agrippa ait été ou non un grand magicien, nous laissons à nos lecteurs le soin de décider la question. Mais quant à son immortalité, ou même à sa longévité, nous pensons qu'il ne faut pas avoir une grande créance aux récits de démonologues, attendu que des documents que nous croyons authentiques, il résulte qu'Agrippa est mort à Grenoble à l'âge de 49 ans. Albert, dit le Grand, né à Lauinger, Souabe, en 1205, se livra à l'étude avec opiniâtreté dès sa jeunesse. Mais son intelligence semblait obtuse. Il avait une peine inouïe à comprendre les choses les plus simples. Cependant, comptant sur la force de volonté dont il était doué, il persévéra. Peu à peu, son esprit s'élucida, sa conception devint plus facile. Et étant entré dans l'ordre de Saint-Dominique, il redoubla d'ardeur. Mais quoique ses efforts fussent moins stériles, il finit par désespérer d'avoir jamais la facilité nécessaire pour acquérir les connaissances qu'il brûlait du désir de posséder, et son chagrin fut si vif qu'il résolut d'abandonner l'étude et de s'enfuir du couvent. Déjà le jeune dominicain avait donné un commencement d'exécution à ses projets de fuite. Armé d'une échelle, il traversa pendant la nuit le jardin du couvent. Il dressait cette échelle sur le mur qu'il se proposait d'escalader, lorsqu'au pied de ce mur, il aperçut une dame admirablement vêtue de riches étoffes, et dont le visage, qui était d'une admirable beauté, semblait tout resplendissant d'une lumière si vive que les yeux du jeune fugitif en furent éblouis. « Albert, lui dit cette dame, d'une voix dont la douceur et la pureté n'avaient rien de comparable, pourquoi quittez-vous cette maison ? C'est afin de ne pas déshonorer l'habit que je porte, et dont je suis indigne, dit le jeune homme, sans oser lever les yeux. J'ai acquis la certitude que, malgré tous mes efforts et ma bonne volonté, je ne serai jamais qu'un ignorant. Avez-vous si peu de foi, reprit la dame, que vous ne croyez pouvoir obtenir par vos prières ce que vous n'avez pu obtenir par votre seule volonté? Je suis la mère de Dieu, et rarement votre prière est montée jusqu'à moi. Albert, frappé à la fois de terreur et d'admiration, se prosterna le visage contre terre aux pieds de la Sainte Vierge, qui, au bout d'un instant, lui ordonna de se relever. « Puisque vous avez un si grand désir d'apprendre, lui dit-elle ensuite, dites-moi quelle est la science que vous êtes le plus impatient de posséder. »« C'est, répondit-il vivement, la philosophie ou science naturelle qui comprend la connaissance de toutes choses. »« Eh bien, cela vous est accordé, reprit la Vierge Marie. Mais parce que vous avez préféré la philosophie qui est la connaissance des choses humaines, à la théologie, qui est la connaissance de Dieu, vous perdrez avant de mourir les immenses facultés dont vous aurez joui pendant la plus grande partie de votre vie. » La Sainte Vierge disparut. Albert resta au couvent et bientôt l'immense génie qu'il montra fit l'admiration de tous. Un si grand homme ne pouvait passer sa vie entière dans un cloître. Albert en sortit, fut comblé d'honneur et devint évêque de Ratisbonne. Mais il passa la plus grande partie de sa vie à Cologne, où il fit des choses merveilleuses. Ainsi, plusieurs auteurs affirment qu'il construit un automate qui marchait et parlait, et qui non seulement répondait aux questions qu'on lui adressait, mais résolvait à l'instant tous les problèmes qui lui étaient soumis. Saint Thomas d'Aquin, qui était disciple d'Albert, fut tellement effrayé en voyant et entendant cet automate que, ne doutant pas qu'il ne fût l'œuvre du démon, il le brisa et le livra aux flammes. D'autres auteurs prétendent qu'Albert pouvait faire tomber la foudre à son gré ou l'obliger à s'éteindre dans l'espace. Qu'on le vit souvent, ou comme en se jouant, faire tomber de la pluie alors qu'il n'y avait aucun nuage au ciel. Un fait qui paraît incontestable, c'est que Guillaume, comte de Hollande et roi des Romains, se trouvant à Cologne, Albert lui offrit, à lui et à toute sa suite, un banquet splendide en leur annonçant que la table serait servie au milieu de son jardin. Comme on était alors au plus fort de l'hiver, Guillaume parut fort surpris et fut même sur le point de laisser éclater son mécontentement de ce qu'on osait agir si légèrement envers lui. Mais il se contint et accepta l'invitation, se proposant de traiter le mystificateur comme il le méritait et en présence de toute sa cour. Le jour indiqué étant venu, Guillaume fut d'abord singulièrement surpris de la température, qui se trouva être tout à coup de plusieurs degrés plus élevée que celle des jours précédents. Mais sa surprise et celle de tous les invités fut bien plus grande lorsque, tous arrivés chez Albert, ils virent le couvert dressé sous un immense berceau formé d'arbrisseaux couverts de feuilles et de fleurs. Le jardin était en outre rempli de fleurs de toute espèce dont les suaves odeurs embaumaient l'air. Le prince admira ces merveilles et ne songea plus à se plaindre. Ces prodiges donnèrent à Albert la réputation de magicien, ce qui n'empêcha pas les dominicains de le faire canoniser. Ce grand homme mourut à Cologne à l'âge de 87 ans, laissant de nombreux ouvrages qui ont été imprimés depuis et ne forment pas moins de 21 volumes in folio. C'est de cet immense recueil qu'a été extrait, en partie du moins, le livre si connu sous le nom de « Secret du grand Albert », qui jouit d'une immense réputation dans les pays où il se trouve encore des sorciers. Alexandre de Paphlagonie. Né vers le milieu du IIe siècle dans une misérable bourgade de Paphlagonie, Alexandre, quoiqu'issu d'une famille excessivement pauvre, se livra de bonne heure à l'étude de la médecine. Puis il s'attacha à une espèce de charlatan avec qui il courut le monde et duquel il apprit l'art d'en imposer à la multitude et de lui faire regarder comme merveilleux les événements les plus simples. Toutes les ruses du métier lui étaient connues lorsque le charlatan mourut. Alexandre se lia alors avec un autre imposteur appelé Coconas. Tous deux se rendirent en Macédoine, vendant sur leur chemin des recettes pour guérir toutes sortes de maux et des talismans pour rajeunir les vieillards et rendre les jeunes gens invulnérables. Afin de faire croire à leur science et au pouvoir occulte qu'ils prétendaient exercer sur les hommes et sur les animaux, même les plus terribles, ils élevèrent et apprivoisèrent un énorme serpent qui devient bientôt si familier que, sur l'ordre qui lui en était donné, il s'enroulait sur leur corps, leur enveloppait le cou de ses replis et feignait d'entrer en fureur sans jamais leur faire le moindre mal. Après avoir ainsi exploité plusieurs pays, Coconas et Alexandre revinrent en Paphlagonie, leur patrie à tous deux. Là, ils apprirent qu'on venait de trouver dans la petite ville d'Abonotique, en démolissant un vieux temple d'Apollon, des lames de cuivre portant des inscriptions qui annonçaient qu'Esculape et Apollon, son père, apparaîtraient bientôt dans cette ville. Ils s'y rendirent aussitôt et à peine y furent-ils arrivés que Coconas mourut. Alexandre n'en persista pas moins à tirer parti de la disposition des esprits. Il commença à parcourir la ville, vêtu d'une robe de pourpre, sur laquelle tombait une longue chevelure blanche. De temps en temps, il s'arrêtait au milieu de la foule d'oisifs qui le suivait, et il disait : « Je suis le fils du Dieu que vous attendez. hâtez-vous de rebâtir son temple, il viendra lui-même afin de vous combler de biens. » On travailla dès lors à la reconstruction du temple, mais il pouvait encore se passer un assez long temps avant qu'il fût entièrement reconstruit. Alexandre annonça qu'en attendant l'arrivée de Dieu, il rendrait des oracles, ce qui était un métier très lucratif. Les moindres oracles se faisant toujours payer fort cher. Enfin, le prétendu fils d'Apollon annonça que son père était arrivé et que les habitants d'Abonotique seraient admis le lendemain à se prosterner devant lui. À l'heure indiquée, la foule se pressait aux abords de la maison où s'était installé le prétendu Esculape. Bientôt les portes s'ouvrirent et Alexandre apparut, les cheveux hérissés, l'écume sur les lèvres et tenant autour de son bras droit un énorme serpent dont la tête s'élevait en sifflant à une hauteur prodigieuse. « Prosternez-vous !» cria Alexandre. « Vous craignez la colère d'Apollon qui m'enveloppe et m'inspire !» Le peuple se prosterna et Alexandre ajouta que désormais les oracles seraient rendus par le dieu lui-même, mais qu'il ne les rendrait qu'écrits et que le prix en serait doublé. En peu de temps, le bruit de ces merveilles se répandit au loin et l'an 174, l'empereur Marc Aurèle fit venir à Rome l'audacieux Alexandre qu'il appelait le dispensateur de l'immortalité et il voulut le consulter sur le résultat de la campagne qu'il était prêt d'entreprendre. « Fais noyer deux lions dans le Danube, » répondit le prophète, « et peu de temps après, une victoire éclatante amènera une paix glorieuse. » Les deux lions furent jetés à l'eau en grande pompe, mais au lieu de se noyer, ils parvinrent à atteindre la rive opposée et ils se sauvèrent. Le lendemain, Marc Aurèle livra bataille, fut battu, mis en déroute et perdit 20 000 hommes. Alexandre chercha à se justifier en disant qu'on avait baigné les lions au lieu de les noyer, que d'ailleurs, en annonçant une grande victoire, il n'avait pas dit pour qui elle serait remportée. Mais dès ce moment, son crédit fut perdu. Quelques auteurs persistent pourtant à croire que cet homme était le plus savant magicien de son temps et qu'il possédait l'art de rajeunir et même de ressusciter les morts dans certaines circonstances, ce qui explique, disent-ils, pourquoi personne ne sait où ni quand est mort cet homme extraordinaire. Fin du chapitre 2. Sous-chapitre 14, partie 1, lu par Martine.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouth-watering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.